Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin. C'est un grand privilège. Mais je dois vous avouer quelque chose ce matin. J'ai pas été sage dans l'emploi de mon horaire cette semaine. J'ai trop fait de choses. Et à matin, je suis claqué. Vous savez, là, tu regardes le cadran qui sonne le matin, là, tu dis « Ah non! » Et là, j'ai dit « Seigneur, je m'excuse, j'ai pas été responsable. J'en ai trop pris. J'ai dû travailler de nuit par bout. » Et là, à matin, je suis un peu essoufflé, mais je demande au Seigneur de couvrir mon manque de sagesse parce que je ne voudrais certainement pas que la pertinence du texte qu'on va regarder ce matin puisse être affectée à cause de la folie d'un homme. Marc, le chapitre 10, on va lire ensemble du verset 1, aller jusqu'au verset 22. Et ensuite, on va demander au Seigneur qu'il nous dirige ce matin et qu'il nous aide à comprendre. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse? » Moïse, dirent-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. » Mais au commencement de la création, dit, « Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse un autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari, et en épouse un autre, elle commet un adultère. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne se recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, les bénit et leur imposa les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons étudier ta parole, nous voulons la regarder ensemble, et nous ne sommes pas intéressés d'entendre un homme parler, nous sommes intéressés de t'entendre toi parler. C'est ta sagesse qu'on veut entendre. On a entendu toutes sortes de choses cette semaine. On a vécu toutes sortes de choses, et ce matin, on veut s'arrêter à tes pieds et t'entendre, toi. Pour que tu puisses libérer nos cœurs, nos esprits, ouvrir nos yeux, nos oreilles, pour que nous puissions vivre d'une façon qui t'honore. Dirige-nous ce matin, Seigneur Jésus, pour ta plus grande gloire. Amen. Le titre du message ce matin est le suivant. Trois grands défis. Trois grands défis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas très positif ce qu'on vient de lire un matin. Ça va pas bien dans le mariage. Ça va pas bien avec les enfants. Puis ça va pas bien financièrement. Ça nous ressemble pas pantoute, ça. Vous avez remarqué ça? Trois sujets maintenant. Trois sujets totalement séparés, mais en même temps qu'on peut pas séparer. Parce que c'est drôle, hein? Parce que quand j'ai de la difficulté à gérer mes finances, j'ai de la difficulté avec mes enfants, j'ai de la difficulté avec mon épouse, j'ai de la difficulté avec mon épouse, j'ai de la difficulté avec mes enfants, quand j'ai de la difficulté avec mes enfants, j'ai de la difficulté avec les finances. Le mariage, les enfants et les finances sont souvent au cœur de gros défis dans la vie spirituelle. Même si c'est pas des choses spirituelles. Vous savez, j'ai pour mon dire qu'on est trop spirituel. On vit dans les nuages, souvent. On se bâtit des petits mondes, des petits contes de fées spirituels, puis on essaie de vivre là-dedans. Mais quand on lit dans les Écritures, on atterrit sur la vraie asphalte, puis on voit que, ben même si j'aime Jésus, il peut avoir des luttes dans ma vie, là. Il peut avoir des difficultés. Donc, ce matin, j'ai trois messages à livrer. 45 minutes plus 45 minutes plus 45 minutes, ça fait quoi, ça? Non, Seigneur voulant, j'aimerais passer à peu près quinzaine de minutes sur chaque sujet, peut-être un peu moins sur certains, un peu plus sur d'autres. Imaginez un monde où tous les papas et les mamans s'aiment. Excusez, j'étais émotif. C'est un texte qui est dur. Parce que l'implication a des implications dans nos vies qui nous touchent personnellement et qui nous font mal. Imaginez un monde où tous les papas et les mamans s'aiment. Un monde où tous les enfants sont aimés et en sécurité. Et finalement, un monde qui n'est pas mené par l'argent. Imaginez-vous un tel monde où tous les papas et les mamans s'aiment, où tous les enfants sont aimés et en sécurité, et un monde qui n'est pas géré par l'argent. Et ce matin, sans rentrer dans tous les détails du divorce et du remariage et du mariage, etc., et sans rentrer dans tous les détails concernant comment élever un enfant, et sans rentrer dans tous les détails de comment gérer ses finances, j'aimerais qu'on puisse sortir d'ici ce matin avec la conviction que peu importe ce que je vis dans mon monde, dans ma vie de famille, dans ma vie de mariage, dans ma vie financière, dans ma vie avec mes enfants, peu importe ce que je vis, Jésus est la seule réponse. Si vous pouvez partir juste avec ça ce matin et l'avoir comme une piste de solution, ce sera mission accomplie. Notre vie, la vie de ceux que je côtoie, ma vie personnelle tourne autour de défis au niveau du couple, de blessures d'enfance qui traînent et qui traînent et qui traînent, et des défis financiers constamment à savoir quel temps est-ce qu'il faut que je prenne pour prendre soin de ma famille, pour finalement, je travaille pour prendre soin de ma famille, mais en travaillant, je ne prends pas soin de ma famille, parce qu'en voulant en prendre soin, je n'en prends pas soin, puis je passe à côté. Est-ce que je suis fou ou vous vivez ça, vous autres aussi? Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les probabilités de grandir sans séquelles d'enfance, d'avoir un mariage heureux et de ne pas avoir de difficultés avec l'argent sont nulles. Vous venez d'atterrir, là, hein? Fait que si vous êtes ici ce matin avec l'attente que je vous explique comment pas avoir de problème, vous avez un problème en commençant. Chacun de ces trois éléments sont un défi colossal en soi. Oubliez ça de toutes les vivre. Oubliez ça. C'est encourageant un matin. La seule bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est Jésus. C'est la seule bonne nouvelle que j'ai pour vous. J'essaie de jongler avec toute l'information qui se passe autour de moi dans ce monde et d'arriver à un point où on aurait la joie de vivre sans problème de couple, sans problème familiaux, sans défi avec l'argent. Ça s'est comme évaporé avec les années. Mais j'ai trouvé d'autres choses. J'ai découvert avec le temps qu'avec Jésus, mon mariage peut réussir. Avec Jésus, je peux offrir un environnement sain à mes enfants. Et avec Jésus, je peux faire beaucoup d'argent. Non. Avec Jésus, c'est bien important, là, parce qu'on peut déraper à ce point-ci. Avec Jésus, je peux être heureux d'être pauvre ou je peux être riche et généreux. Et sans Jésus, c'est impossible. J'aime beaucoup témoigner de ma foi. Et un jour, j'étais sur la rue, puis je rencontre un gars qu'on pourrait appeler un punk. Mais j'aime parler à ce monde-là. J'aime ça. C'est plaisant de discuter avec eux autres. Ils sont un petit peu marginaux. Ils ont une perspective différente de la mienne. Moi, j'ai été élevé entre quatre murs avec des règlements, puis une institution, puis tout ça. Là. Je ne sais pas, ils pensent un petit peu à côté de la traque. Puis il m'a regardé, puis il m'a dit... Il dit, viens pas me parler de ton Dieu, toi. Ah oui, ben j'ai dit, dis-moi pourquoi. Pourquoi tu veux pas que je te parle de mon Dieu? Ben il dit, tu vois pas la souffrance sur la terre? Puis j'entendais quasiment, tu vois pas la souffrance que moi je vis? Tu vois pas comment c'est injuste? Tu vois pas comment il y a des enfants qui meurent de faim? Tu vois pas comment... Il y a des enfants qui se font violer, abuser. Dans la Bible, le mot utilisé, comme vous avez vu la semaine passée, c'est scandalisé. Comment est-ce que ça marche pas, les familles? Mais son emphase la plus forte, c'était il y a des enfants qui meurent de faim. Et je l'ai regardé, j'ai dit, oh, attends une minute. Est-ce que vous êtes conscient que sur la terre, présentement, il y a des hommes qui ont assez d'argent dans leur poche pour, à eux seuls, avec un seul chèque, régler le problème de pauvreté en Afrique comme ça? Tout le monde aurait les médicaments, tout le monde aurait de la nourriture. Alors, j'ai regardé le gars. J'ai dit, sais-tu ce que tu es en train de faire? Tu n'es pas en train d'accuser Dieu de rien présentement. Tu es en train tout simplement de t'accuser toi-même de rien faire. Et c'est ça la réalité. Dieu ne fera pas pour moi ce qu'il me demande de faire. Dieu est un Dieu bon qui prend soin de nous, mais qui n'encourage pas la paresse et qui n'encourage pas le paresseux. Et si tu es frustré après Dieu parce que ça va pas bien dans ton mariage, tu es frustré après Dieu parce que ça va pas bien avec tes enfants, si tu es frustré après Dieu parce que ça va pas bien avec ton travail, bien, premièrement, arrête d'être frustré. Continue de crier à lui pour qu'il intervienne. Continue de l'implorer. Mais change d'attitude. Il y a des choses que toi, tu peux faire. Que Dieu veut que tu utilises ce qu'il t'a donné. On pourrait dire ceci. Le mariage n'est pas une fin en soi. En autre mot, de désirer avoir un mariage heureux, c'est pas vraiment un objectif. De désirer avoir une enfance heureuse non plus, et de désirer savoir comment gérer l'argent, n'est pas un objectif non plus. Psaume 37, le verset 4, nous dit la chose suivante. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Savez-vous ce que j'ai compris avec les années? Le Seigneur Jésus ne nous donne pas toujours ce que notre cœur désire quand on fait ses délices. Il va dire, « Hé! Tu contredis ce verset-là? » Non. Écoutez bien ceci. Des fois, au lieu de nous donner ce qu'on désire, il change nos désirs. Et ça finit par devenir notre désir. Mais c'est pas notre agenda qui nous donne. Et c'est pas parce que je fais plaisir à Dieu qu'il va me donner ce que je veux. Moi, c'est que quand je fais plaisir à Dieu, quand je cherche à honorer Dieu, mon cœur change et les désirs de Dieu deviennent mes désirs. Et fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Change de couleur complètement. Approche-toi de Dieu et tes problèmes de mariage, tes problèmes avec tes enfants, tes problèmes financiers vont changer de couleur. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça fait mal? Oui. Le facile et le pas mal, c'est de l'autre côté, ça. C'est pas pour tout de suite. Puis de toute façon, et je vais être dur un peu, là. Le salaire du péché, c'est la mort. La semaine passée, on a vu qu'il y avait l'enfer qui existe. Et que chacun d'entre nous la mérite à 100%. Et tout ce qui fait juste un petit peu moins mal que l'enfer est une grâce incroyable. Puisque c'est ce que je mérite, l'enfer. Étant donné que je mérite l'enfer, et quand Jésus... Et que par Jésus, je peux avoir un pardon de mes péchés qui me permet de m'approcher de Dieu sans avoir peur de son châtiment. Je ne devrais pas trop chialer quand ça fait mal. Parce que je mérite que ça fasse mal, pas mal plus que ça. C'est pour moi ça? Oh! Merci! Moi aussi, pas de donner un coup de pied dessus. Quand mon objectif est d'aimer Jésus, les bonnes choses de la vie deviennent secondaires. En d'autres mots, un bon mariage ne me donnera pas Jésus, mais Jésus peut me donner un bon mariage. Je n'ai pas en moi-même ce qu'il faut pour réussir ma vie au standard de Dieu, mais lui a tout en réserve pour que je puisse vivre ma vie selon ses standards. Dieu a tout ce que j'ai besoin. Tout, tout, tout. On va commencer notre petite étude sur Marc, chapitre 10. On va parler du divorce maintenant. Et en introduction, j'aimerais vous faire écouter. Les gars, du son, s'il vous plaît. La chanson de Lara Fabian. Fabien, la lettre. Speak.
s'évanouira dans la nature, qu'une fois mélanger toutes les saisons, choisis bien tes mots, choisis les justes, comme un artisan prend son temps quand il ajuste. Écris-moi une lettre de rupture, envoie-moi seulement le brouillon. Promis, je vais rien chercher dans les ratures. Écris-moi une lettre au crayon, écris-moi comme on écrit la musique. Sacrifie-moi, oh Dieu, tes amours invisibles. Merci partir quand l'autre reste.
Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Les instructions de Dieu sont là pour notre bien. Les divorces et les ruptures font du mal aux sentiments. Pourquoi? Pourquoi ça fait mal? Il semble que si on s'entend plus ensemble, puis que tout se bien d'aller voir ailleurs, tu sais, tant qu'à pas être heureux. Pourquoi ça fait mal? Pourquoi quand on entend la radio, à toutes les fois qu'on parle de rupture, on entend de la colère, on entend de la douleur, on entend des sentiments négatifs? Et on essaie de mettre ça beau, on essaie de le chanter, mais en bout de ligne, on reste tout seul avec notre douleur. Les instructions de Dieu sont là pour notre bien. Et nous avons été créés pour le mariage. Nous avons été créés pour s'unir avec une personne du sexe opposé. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pourquoi est-ce que le divorce fait mal? Pourquoi est-ce que le divorce détruit? La raison, elle est bien simple. Jésus le mentionne. Ils deviennent une seule chair. Vous essayerez, vous, de vous couper en deux sans conséquences douloureuses? C'est impossible. L'homme et la femme mariés n'ont pas été faits pour être séparés, pas plus que mon corps était fait d'être coupé en deux. Ça fait un dégât. C'est pas beau. Ça l'éclabousse. Ça salit autour. Ça fait beaucoup de mal. Le sujet du divorce est un sujet très délicat parce que il y a beaucoup d'émotions impliquées. Beaucoup de douleurs impliquées. Beaucoup de souffrances impliquées. Le sujet du divorce est extrêmement délicat à adresser. Et les pharisiens qui étaient des érudits ont choisi ce sujet pour embêter Jésus. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi ce sujet-là. Parce qu'il voulait l'amener dans une traque difficile, une place où on pourrait le coincer, une place où ce qui pourrait offenser les gens. Mais Jésus, il a pas tombé dans le piège. Jésus est allé directement à l'objectif. Est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis. Mais Jésus met l'emphase sur la chose suivante. C'est à cause de l'endurcissement de votre cœur. En autres mots, quand deux personnes se séparent, c'est pas de la faute à Dieu. Quand deux personnes se séparent, c'est pas de la faute à Dieu. Quand deux personnes choisissent de se divorcer, la raison, c'est l'endurcissement du cœur. Et l'endurcissement du cœur est la cause de la majorité des problèmes sur cette terre. La même solution qui s'applique au fait que tu peux être agressif, ou au fait que tu as un problème avec la convoitise, ou au fait que tu as un cœur rebelle, etc., etc. C'est la même solution qui s'applique, parce que c'est le même problème. Un cœur dur. On a un cœur dur. La règle de base venant de Dieu, un homme, une femme, pour la vie. Mais relationnellement, on est des épaves. Relationnellement, on a de la difficulté à s'approcher de quelqu'un d'autre sans se faire mal. On dirait que le plus qu'on s'approche d'une personne, le plus qu'on y fait mal, puis le plus qu'elle nous fait mal. Et à un moment donné, on vient à un point où on voit pas d'autre issue que de changer de partenaire. Mais Jésus veut faire autre chose avec toi, te donner une autre option. Jésus veut changer ton cœur et enlever son endurcissement. Le succès dans le mariage, c'est deux personnes qui se tournent vers Dieu pour avoir le cœur transformé. Ça, c'est le succès du mariage. C'est un triangle. Si vous essayez de vous rapprocher l'un de l'autre, ça marche pas parce que vous avez un cœur dur. Mais si vous vous rapprochez ensemble vers Dieu, Dieu va s'occuper de votre cœur dur. Le plus gros problème des mariages, c'est qu'on attend de notre époux, de notre épouse, ce que Dieu seul peut donner. Te faire sentir bien n'est pas le rôle de ton conjoint. Un conjoint n'est pas un animal de compagnie à qui on peut apprendre la commande « Fais-moi sentir bien !» Et on arrive à un point dans notre vie où on est frustré après notre conjoint, parce qu'on ne se sent plus bien avec. Mais si tu ne te sens pas bien, ce n'est pas de la faute de ton conjoint, c'est de ta faute à toi. Tu as un cœur dur. Un mariage heureux, c'est deux personnes heureuses. Pas une personne heureuse. Un mariage heureux, c'est deux personnes heureuses qui s'approchent. Deux personnes qui sont pas heureuses qui essaient de s'approcher, ça marche pas. On règle pas des problèmes de couple. On règle des problèmes de cœur dur devant Dieu. Si vous abordiez vos problèmes, si j'abordais mes problèmes de couple en disant, en commençant, peu importe le problème, en me disant à moi-même et en me rappelant, j'ai un cœur dur et égoïste. Il y a beaucoup de situations difficiles qui seraient résolues. Si j'approchais mon conjoint ou ma conjointe en ne cherchant pas mon intérêt. Mais le divorce est une porte de sortie, permis par Dieu quand l'un des deux conjoints persiste dans son endurcissement. Quand l'un des deux conjoints se dit, et là je vais large, je paraphrase, « Tu veux pas me rendre heureux? Tu veux pas me rendre heureuse? Mais je vais aller voir ailleurs. » Le divorce n'est pas voulu de Dieu, mais il est permis pour éviter des situations qui pourraient être pires. Certaines personnes ont le cœur si dur que ce qu'ils font vivre à leur conjoint est impensable. Et un jour, ses conjoints vont rencontrer Dieu, vont avoir des comptes à rendre. Si vous avez le cœur dur avec votre épouse ou avec votre époux, je vous demanderais de considérer qu'est-ce que Dieu pense de votre cœur. Pour une telle victime, il y a une porte de sortie. Il y a un rétablissement en Jésus. Si de tout votre cœur, vous avez recherché Dieu, vous avez apporté vos torts devant Dieu et devant votre conjoint. Il y a une porte de sortie au mariage. Pas voulu par Dieu, mais permis par Dieu pour éviter les plus gros problèmes. Et pour une personne qui a ce cœur, cette attitude de vouloir rétablir le mariage, de vouloir pardonner, de vouloir continuer, mais qui arrive à la conclusion que c'est impossible, il y a une vie pour vous après. Jésus est là pour vous relever, pour vous renforcer, pour vous redonner le goût à la vie. Mais on n'arrive pas à cette conclusion-là comme ça. Et dans cette église, il y a des ministères, il y a des pasteurs, il y a un ministère de cœur à cœur, il y a des gens qui veulent prendre soin de vous. Et avant d'arriver à une telle conclusion, on a besoin d'aide, on a besoin de conseils. Et ce matin, je n'irai pas dans tous les détails, je vais arrêter là. Mais sachez ceci, Jésus est la solution. La rupture, ça fait mal. Venez à Christ avec votre cœur dur. Restez pas dans votre endurcissement de cœur. Il n'y a pas de solution là. Deuxième message. Les disciples reprennent des gens qui amènent des enfants à Jésus. Et Jésus est tout indigné. Patrick Burel, qui a le droit?
Rien dit, Tu sais faire la paire. Maman m'a dit, t'es trop petit pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Qui a le droit? Passe sa vie à dire merci, merci à qui, à quoi, à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. On m'avait dit, les hommes sont tous pareils. Plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil.
La société est remplie d'enfants scandalisés. Et par ce chat, il me semble que Patrick Burel en serait un. La majorité des adultes sont des enfants scandalisés. Ce n'est pas pour rien qu'un des textes les plus durs sur l'enfer est en lien direct avec un avertissement de ne pas scandaliser les enfants. On se pose la question, pourquoi les disciples n'ont pas compris? Parce que, vous vous rappelez, hein, la semaine dernière, les disciples chicanaient qui était le plus grand. Vous vous rappelez de ça? Vous avez jamais vu quelqu'un chicaner pour ça. Et vous avez jamais fait ça, vous autres non plus, moi non plus, mais en tout cas. Je trouve bien intéressant la réponse de Jésus. Jésus, il prend un enfant, il l'assit sur ses genoux, puis il dit d'en prendre soin. Pourquoi c'est la première chose qu'il fait quand il voit des grands chicaner? Parce que pendant que les orgueilleux de ce monde sont en train de se battre, il y a des enfants qui meurent de faim. Vous pouvez mettre la photo de Kevin Carter, s'il vous plaît. Ah, c'est pas aussi grand que j'aurais pensé. Vous avez sur cette photo ici un vautour qui regarde un enfant qui est en train de mourir de faim. On s'en rend pas compte, mais Jésus le savait. Quand les grands se chicanent, il y a des enfants qui meurent de faim. Qu'est-ce que la guerre fait? Quand papa puis maman se chicanent, qu'est-ce que ça fait aux enfants? Ça fait mal. Et on a la responsabilité d'accueillir les enfants, de les protéger et d'en prendre soin. L'homme qui a pris cette photo-là, s'est suicidé 3 mois après. Et il y a des articles sur Internet qui débattent la question. Oh, venez pas dire qu'il s'est suicidé parce qu'il n'a rien fait. Il a installé sa caméra puis il restait là 20 minutes de temps. Il voulait que la rapace ouvre ses ailes pour prendre la photo, mais il ne l'a jamais fait. M. Carter avait trop vu d'horreur dans sa vie. Et à l'âge de 33 ans, il s'est suicidé. Il avait essayé, par exemple, et ça, faut lui donner à Kevin Carter, il avait essayé. Il avait essayé de changer la situation, puis il s'est rendu compte qu'il n'était pas capable, donc il a pris des photos, mais ces photos ne changeaient rien. Il s'est suicidé. Jésus prend un enfant sur ses genoux en réponse à la chicane de ses disciples. Et ensuite, il dit d'accueillir les enfants, de ne pas les scandaliser, et que ceux qui les scandalisent vont avoir une pierre à leur cou. Il serait mieux qu'il y ait une pierre à leur cou qui soit jetée dans la mer. On traîne nos blessures d'enfant toute notre vie. Et je suis bien heureux de savoir que Dieu est au ciel et qu'il sait ceux qui abusent des enfants. Et qu'il va les rattraper au détour. Je suis bien heureux de savoir que Jésus veut bénir les enfants et en prendre soin. On traîne nos blessures d'enfants toute notre vie. Certains trouveront la guérison, mais quelque part, toute blessure profonde, même bien guérie, laisse des cicatrices. Les enfants ont besoin d'être aimés. Nous, comme évangéliques, nous devrions être connus comme ceux qui aiment et prenons soin des enfants. Quand les gens parlent de nous, ils parlent qu'on est contre l'avortement, ils parlent qu'on est contre l'homosexualité. Pourquoi est-ce qu'ils parleraient pas? Hey, ça, c'est des gens qui prennent soin des enfants. Moi, c'est ça que je veux entendre. On parle beaucoup de la dernière commission, hein, d'aller faire de toutes les nations disciples. Faisons-en des disciples, mais il n'y a pas juste ça que Jésus a dit. Il a dit de prendre soin des enfants aussi. Est-ce qu'on est trop spirituel? Qu'on a mis de côté certaines choses qu'on n'aurait pas dû mettre de côté? Il y a 130 millions d'orphelins à accueillir dans le monde présentement. C'est quand on va commencer à obéir à Jésus qui nous dit d'accueillir les enfants. C'est quand est-ce qu'on va choisir de faire une différence? Prochaine photo, s'il vous plaît. C'est mon petit garçon, Josué. Il a été trouvé au dépotoir la journée de sa naissance, dans un sac de poubelle. Et les vautours étaient en train de le manger. Il est en train de se faire manger par des oiseaux qui l'ont ramassé. Et il va garder des séquelles à vie. Mais regardez la joie dans sa face. C'est la première visite qu'on a avec lui. Je l'ai pris dans mes bras, je lui ai donné un bec. C'est quoi ça, cette affection-là? Il capotait mes rides. Savez-vous que quand je raconte ça aux gens du monde, je me fais dire, « Hey, c'est bon ça! » il y a même des gens qui me disent, « Hey, enfin quelqu'un qui est vrai. Tu dis que tu aimes des jus de Jésus, puis tu fais quelque chose. » Quand j'en parle dans l'Église, savez-vous ce que j'entends? Je changerai pas le monde. Ou, ça prend un appel spécial. Je sais pas, je n'ai pas reçu d'appel, moi. J'ai lu la Bible. Comprenez? La vie fait mal. Et ça fait mal d'avoir un enfant comme ça à la maison. Mais il y avait besoin d'amour. Et on a choisi de l'aimer. % du financement de cette adoption-là vient des gens qu'on appelle païens. 80% du financement de cette adoption-là vient de ces gens-là. Imaginez-vous. C'est un beau miroir, hein? On peut faire une différence. Si vous faites une différence, c'est super aller en Haïti. Mais il faut continuer. Il faut que les gens cherchent qu'on aime. Il y a des enfants ici à Trois-Rivières qui se font abuser. Il y a des enfants qui ont besoin de familles d'accueil. Est-ce qu'on peut être connu comme étant des gens qui protègent les enfants? On investit là où ça vaut la peine. Prochaine toune. Et on termine avec ça.
Je vais chez mon garagiste pour changer mes pneus, ça coûte de l'argent.
Mais je me bats pour te peindre mes cheveux, ça coule la dent. La dent fait le bonheur, la dent.
Perdre tout son temps. L'argent fait le bonheur. On y perd tout notre temps. On y perd nos relations. Et on s'en va tout triste. Le jeune homme riche a sacrifié la relation la plus importante qu'il pouvait avoir, celle avec Dieu, pour garder son argent. Quand tu en auras plus, tu auras manqué l'autobus, avant de manquer l'autobus. Considère suivre le Seigneur Jésus, et lui va t'en donner plus dans ton mariage, pour les enfants, et même dans ta capacité d'utiliser l'argent comme il faut. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on a vu des textes qui sont difficile ce matin, on a vu de l'information qui est difficile à gérer, qui peuvent nous faire mal en dedans. Mais Seigneur Jésus, on ne veut pas recevoir cette information-là comme un fardeau qui nous écrase. On veut juste être conscient de ce qui se passe autour de nous. Et par ta grâce, on veut être là où tu veux que nous soyons. Nous voulons te glorifier dans la façon dont nous prenons soin de notre conjoint. De notre conjointe. Nous voulons te glorifier dans la façon dont nous prenons soin des enfants, dans la façon dont nous encourageons les autres à prendre soin des enfants. Et Seigneur Jésus, on n'est pas ignorant du fait que la façon dont on est géré par l'argent influence notre capacité de prendre soin de notre épouse, notre époux, influence la capacité qu'on a de prendre soin des enfants. Et il y a toute une ironie là-dedans, Seigneur, parce que si on essaie de prendre soin, on manque d'argent, et quand on a de l'argent, on manque de temps pour prendre soin. Garde-nous dans l'équilibre, garde-nous dans la sagesse, et donne-nous la joie de faire une différence en ton nom, pour ta gloire, Seigneur Jésus. Et on sait, parce que tu es celui qui est ressuscité des morts, on sait que tu peux prendre des gens qui sont faibles, on sait que tu peux prendre des gens comme moi qui ont pas grand-chose à offrir. Et tu peux leur permettre de faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées. Donne-nous cette joie, Seigneur, de te glorifier
et de t'aimer en faisant des choses que peut-être qu'on n'aurait jamais imaginées à être possibles grâce à toi. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Amen.